France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Des réseaux sociaux aux intelligences artificielles, les systèmes d'information s'infiltrent désormais partout jusqu'en dans les recoins les plus privés de nos vies. Le volume de données qui circule est unique dans l'histoire de l'humanité et pourtant le monde n'a jamais été aussi peu prévisible. Jamais nous n'avons eu à ce point le sentiment de ne rien pouvoir contrôler ni prédire. Tandis que la guerre fait rage en Ukraine et au Moyen-Orient, que les protestations se multiplient dans la plus grande anarchie, le mouvement de révolte mondiale, né à l'aube du siècle et baptisé par défaut populisme, est en train d'accoucher sous nos yeux d'une nouvelle forme de pouvoir, à la fois très ancienne et entièrement neuve, un pouvoir qui ne répond à aucun programme clair, aux décisions imprévisibles, entièrement tournées vers l'action, un pouvoir post-littéraire, post-culture, post-historique, et qui, au nom de la lutte contre les élites, s'apprête à laisser très peu de place à ce que l'on appelait jusqu'au début de ce siècle la liberté individuelle. Telle est en tout cas en partie la thèse du nouveau livre de Giuliano da Empoli, L'heure des prédateurs, qui sort en ce moment chez Gallimard. Mais peut-être ne faut-il d'ailleurs pas parler de thèse, parce que ce livre est très particulier. Bonjour Giuliano da Empoli.
Bonjour.
Vous êtes conseiller politique, vous êtes écrivain, enfin vous avez été conseiller politique, vous êtes aujourd'hui écrivain. On vous connaît pour Les Ingénieurs du Chaos, pour Le Mage du Kremlin, qui est un roman, et pour ce livre, L'heure des prédateurs, dont je viens de le dire, qui est moins une thèse en réalité qu'une série d'observations. Je voudrais qu'on dise deux mots sur la forme de ce livre, justement. Votre travail de conseiller politique vous a permis de déambuler dans les couloirs du pouvoir mondial. Et le livre que vous en tirez, d'abord, délaisse complètement la fiction, vous le dites à un moment donné. Il semble que ce soit de plus en plus difficile d'écrire de la fiction pour essayer de rendre compte de la complexité et de l'imprévisibilité du monde tel qu'il est en train de se transformer.
Oui, parce que en vérité, la réalité a une sorte d'avantage déloyal par rapport à la fiction. Si vous écrivez de la fiction, il faut que vous gardiez une forme de cohérence, de crédibilité, sinon vous allez perdre vos lecteurs. Et ce qui est un problème que la réalité n'a pas. Elle peut être aussi absurde qu'elle veut, aussi peu crédible qu'elle veut. Donc ça lui donne un avantage par rapport à la fiction. Moi, vu que j'étais en train d'écrire une fiction, toujours sur des sujets assez proches de la réalité, parce que je n'ai pas moi-même énormément d'imagination, j'étais constamment dérangé par cette irruption de la réalité qui allait au-delà de ce que j'étais en train d'écrire. Et donc j'ai décidé, d'une certaine façon, de me venger de la réalité en écrivant ce livre, qui essaye de la traiter un peu comme si c'était une fiction, en effet. Donc j'essaye de construire des scènes, des personnages, de m'attacher à certains détails qui me semblent révélateurs. J'écris en première personne et donc j'essaye un tout petit peu de plonger mon lecteur dans la scène, presque comme si c'était une fiction.
Alors, c'est un livre aussi dont la forme fait sciemment penser aux chroniques antiques, par certains aspects, et une forme qui témoigne, à mon sens, d'un changement de régime historique. C'est-à-dire que on n'est plus dans un temps où l'histoire avait un sens au sens hegelien du terme, comme jusqu'à la fin, en gros jusqu'au milieu ou à la fin du XXe siècle, mais on est revenu à une sorte de forme de chronique du pouvoir, en quelque sorte.
Tout à fait. Je pense que c'est ce qui est frappant aujourd'hui. C'est pour ça aussi que tous ces personnes. Vous savez, il y avait un philosophe italien qui s'appelait Ernesto De Martino, pas très connu même en Italie, mais et qui avait ce concept d'apocalypse culturelle. Et lui disait l'apocalypse culturelle, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est le moment dans lequel les instruments que vous avez à votre disposition, que vous avez construits jusqu'ici, ne vous permettent plus d'interpréter la réalité et la marche du monde. Et je pense que nous nous trouvons en partie dans cette situation, surtout nous, notre génération. J'ai l'impression que nous avons, vous êtes peut-être un tout petit peu plus jeune que moi, mais en tout cas, nous avons plus ou moins le même âge. Les gens qui ont été socialisés à la politique dans les années, qui ont commencé un peu dans les années 90 et puis 2000, 2010, je pense qu'ils se trouvent aujourd'hui un peu mal à partie pour interpréter ce qui se passe, parce que les catégories de cette époque-là, donc des dernières décennies, ne nous servent pas à grand-chose en termes de lecture et d'interprétation de ce qui est sous nos yeux. Et il faut peut-être remonter un peu plus loin dans le temps pour retrouver des catégories et des personnages plutôt brutaux, en effet, dans la logique même d'un pouvoir désinhibé, qui sont, au fond, des personnages que nous retrouvons dans des chroniques historiques d'époque passée.
Des antiques.
Et notamment, vous savez, moi, j'ai fait des études classiques à Rome, mais étant animé par une forme d'esprit de contradiction, ça m'ennuyait assez. Donc c'est plutôt là maintenant, ces dernières années, que je me suis replongé dans des lectures que j'aurais dû faire avant. Et en effet, je pense que Suétone, Tacite, hein. les chroniques des empereurs, même les satires, même du Juvénal, même du Pétrone, tout ça est probablement plus utile pour regarder l'actualité et les personnages qui l'animent aujourd'hui.
Alors, au début de votre livre, votre livre commence par la description des corps des politiques. Il y a deux personnages qui symbolisent un peu ce changement de monde. Le premier, à mon sens, c'est la description que vous faites de Biden en septembre 24. Vous accompagnez Emmanuel Macron à un rendez-vous avec Biden à l'Assemblée générale des Nations Unies. Biden reçoit, non pas dans le bâtiment des Nations Unies, mais au Barclay, dans un hôtel, à quelques rues de distance, et dans une suite, et vous décrivez tout autour, le décor autour de Biden. Il reçoit sous une tente de velours lourde, sous laquelle il mène ses entretiens, et vous dites « le centre est vide, c'est une drôle d'impression, au cœur de la scène il n'y a qu'un grand-père fatigué qui s'éternise, le dernier président atlantique, le dernier combattant de la guerre froide, le dernier internationaliste, et pourtant le bilan de sa politique internationale n'est qu'un tas de ruines ». Et à côté, ou plutôt juste après, vous livrez un portrait de Mohamed Ben Salman, donc l'émir d'Arabie Saoudite, dont Donald Trump semble être tombé profondément amoureux ces dernières semaines.
Tout à fait.
Et vous le décrivez, puisque vous l'avez vu en vrai, vous décrivez sa séduction, son sourire, et vous racontez cette histoire terrible qui est arrivée en novembre 2017, quand il a convoqué 350 des hommes les plus riches et les plus puissants du royaume, princes, hommes d'affaires, milliardaires, qui devaient se rendre au palais, et qui, une fois arrivés au palais, ont été emprisonnés dans un hôtel de luxe, au Ritz-Carlton, où ils ont été ensuite livrés aux mercenaires de Blackwater et torturés jusqu'au moment où ils ont dû faire des chèques de plusieurs milliards de dollars qui ont permis à Ben Salman de financer son programme de construction pharaonique de villes ultramodernes et technologisées. Ces deux images, ces deux personnalités, ces deux corps, puisque vous les décrivez physiquement, c'est le changement de monde auquel on est en train d'assister.
Oui, d'une certaine façon, je pense que c'est tout à fait le cas. D'ailleurs, il ne faut quand même pas oublier que MBS, donc Mohamed Ben Salman, le prince héritier et le vrai pouvoir aujourd'hui en Arabie Saoudite, avait été le premier grand succès en politique étrangère de Trump dès son premier mandat. D'ailleurs, Trump avait accompli son premier voyage à l'international lors de son premier mandat, déjà en Arabie Saoudite, parce que c'était à travers son appui que MBS a pu prendre la place du prince héritier précédent, qui était censé devenir roi, et qui, à travers une opération déjà assez brutale à l'époque, avec l'appui des États-Unis, avait été donc remplacé par MBS lui-même. Et oui, je pense que là aussi, on sort des codes, parce qu'à la fin, il s'agit de ça, c'est-à-dire jusqu'à quel point l'usage de la force est bridé par des lois, des règles, des codes qu'on a de façon évidemment tout à fait imparfaite, avec beaucoup de fatigue, mais essayer d'instaurer, d'imposer dans les relations internationales et dans les relations politiques à l'intérieur des États au cours des dernières décennies. Et aujourd'hui, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons peut-être, disons, il y a une très très grosse prime politique pour toutes les figures et les personnages qui sont prêts à s'émanciper de ces codes et de ces règles et à faire un usage, par contre, complètement libre et sans limite de la force. Même en Arabie Saoudite, en effet, ce n'est pas une démocratie, ça ne l'a jamais été, mais c'était un système où vous aviez une forme de consensus, d'équilibre entre plusieurs clans, plusieurs sorte de partis qui étaient plutôt des centres de pouvoir qui étaient dans une relation assez complexe les uns avec les autres. Quand MBS débarque, vous venez de le dire, il est encore relativement faible parce qu'il vient d'arriver, de remplacer le prince héritier précédent. Mais que fait-il ? Il lance une grande fête, il envoie toutes ses invitations, d'ailleurs avec des prétextes différents, aux différents princes, différents ministres, différents milliardaires qui arrivent au Palais Royal, qui se voient retirer leur téléphone portable et évidemment séparés de leurs assistants et qui sont enfermés dans cette sorte d'hôtel luxueux qui devient une prison et un lieu de torture.
Et un lieu de torture. Et vous comparez donc MBS à César Borgia qui, le 31 décembre 1502, réunit ses anciens alliés, plusieurs de ses anciens alliés pour un banquet à la suite duquel ils sont tous assassiné.
Oui, ça m'a frappé parce que là, il n'y avait même pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour faire la comparaison. C'était exactement la même chose.
Oui.
Donc, vu que c'est un épisode quand même connu, d'ailleurs Machiavel est témoin de cette scène parce qu'il est à ce moment-là en ambassade pour le comte de Florence auprès du duc de Romagne, donc César Borgia. Et donc, il assiste à cette scène inouïe du banquet de Nouvel An qui se transforme en un carnage.
Un autre personnage que vous citez au début du livre, c'est Nayib Bukele, qui est un ancien publicitaire, devenu président du Salvador, très jeune, qui se définit comme le dictateur le plus cool de la Terre, le roi philosophe, ou le caudillo millénial. Et vous rappelez que quand il a été élu pour la première fois à l'âge de 37 ans, le Salvador était le pays le plus violent du monde. Le taux d'homicide y était trois fois plus élevé qu'en Haïti. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a il a fait éditer un manuel de tatouage, puisque les membres des gangs étaient tous tatoués, plutôt que de s'appuyer sur le code juridique, il s'est appuyé sur un manuel de tatouage. Il a fait arrêter 80 000 personnes, tous les tatoués du pays, sans tenir compte d'aucun code pénal, et en quelque sorte il a diffusé des vidéos des prisonniers crâne rasé dans les prisons. Il est devenu très populaire et de fait le taux d'homicide a chuté complètement jusqu'à faire du Salvador aujourd'hui l'un des pays les plus sûrs du monde. Le taux d'homicide, je crois, est plus faible qu'au Canada.
Exactement. Et là, je pense, se pose le véritable problème. C'est-à-dire, au fond, quel est le point commun de tous ces prédateurs politiques ? C'est qu'ils promettent une forme de miracle. Le miracle en théologie, c'est Dieu qui s'émancipe du fonctionnement normal du monde des hommes pour intervenir directement sur une situation et produire un résultat concret. Ça, c'est véritablement la définition du miracle. Et dans des sociétés qui ont beaucoup de problèmes ou dans lesquelles il y a un taux de défiance très élevé et dans lesquelles, de toute façon, beaucoup de gens ont la sensation que rien ne change, que rien ne peut être fait, qu'il y a de toute façon trop de règles, trop de contraintes, on vote d'un côté, on vote de l'autre, ça ne change rien. Eh bien, le prédateur politique, il promet un miracle politique au sens où il dit « Moi, je vais bien évidemment m'émanciper des règles et des lois. » D'ailleurs, presque tout de suite, ces personnages-là entrent en contraste avec les instances judiciaires de leur pays, avec les juges, même parfois avec les avocats. Mais, dit-il, le prédateur, je vais le faire pour pouvoir m'attaquer à un de vos problèmes, à un problème du peuple. Qu'il s'agisse, dans le cas de Bukele, en effet, au Salvador, le problème de la criminalité était terrifiant, et donc la criminalité, ça peut être comme Trump, l'immigration, ça peut être même l'inflation, le pouvoir d'achat, le fait que, voilà, que des emplois partent à l'étranger, etc. Et donc, alors, quand ça ne marche pas, comme c'est le cas de Trump, hein, qui fait des miracles, qui propose des miracles, mais ça n'a pas l'air de bien marcher.
La machine grippe.
Bon, alors, évidemment, ça peut poser des problèmes. Mais le vrai problème se pose quand le miracle fonctionne. Dans le cas de Bukele, moi, je l'ai vu à l'Assemblée des Nations Unies. Il est venu faire un discours, c'est d'ailleurs un orateur très efficace, et il est venu à la tribune en disant « Vous m'accusez d'avoir mis en prison des milliers de gens, mais moi, je viens vous dire que j'en ai libéré des millions. » Parce que aujourd'hui, au Salvador, tout le monde peut se promener dans les villes la nuit sans avoir peur de se faire assassiner. Et c'est là véritablement que nous, bons démocrates, évidemment attachés à l'état de droit, aux procédures qui sont la raison même, disons, non pas la raison, mais la substance même de la démocratie telle que nous la concevons. Nous avons du mal à nous confronter à ça.
Alors oui, de fait, Bukele, en février 24, a été réélu avec 84% des voix et son parti, à la tête de son parti Nuevas Ideas, Nouvelles Idées, qui n'existait pas 6 ans plus tôt. Et les élections étaient libres. Il y a eu 3000 observateurs internationaux qui ont certifié l'absolue régularité des élections. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le dictateur le plus cool de la Terre a été réélu démocratiquement après avoir rendu son pays beaucoup plus sûr qu'il ne l'était jusque-là. Et on a l'impression que ces nouveaux prédateurs, Trump leur a servi de révélateur en quelque sorte. Le lendemain de l'élection de Trump, vous signalez que Bukele proclamait sur X, quelle que soit votre préférence politique, que vous aimiez ou non ce qui s'est passé, je suis certain que vous ne saisissez pas pleinement la bifurcation de la civilisation humaine qui a commencé hier, c'est-à-dire avec l'élection de Trump. Et cette bifurcation, vous l'appelez le moment machiavélien, et vous le définissez par 2 règles. C'est la première loi du comportement stratégique du nouveau des prédateurs d'aujourd'hui est l'action, et il faut que ce soit une action irréfléchie, c'est-à-dire qui transgresse les règles et qui apparaît en tout cas comme parfaitement spontanée.
Je pense que cette composante irréfléchie de l'action est très importante parce que si vous êtes au fond dans une action qui a été mûrement considérée, analysée et supportée par des études, etc., bon, vous n'êtes pas dans un véritable acte de pouvoir, vous êtes dans un acte, encore une fois, qu'un technocrate, quelqu'un de la vieille génération des politiques pourrait accomplir. Alors qu'un acte irréfléchi ou brutal, parce que cette composante de brutalité, on la voit par exemple dans des scènes, les scènes qu'on nous impose du studio Oval, du bureau Oval, très fréquemment, non, ces scènes d'humiliation, ces scènes très violentes qui ont lieu.
Avec Zelensky.
Voilà, je parle de Zelensky, mais de bien d'autres, de presque tous les chefs d'État qui passent par là. Eh bien, ces scènes-là, par contre, ce sont des scènes qui sont des véritables actes de pouvoir. Et très souvent il réfléchit, et ça, je cite dans le livre un vieux duc de Saxe du 18e siècle que ses conseillers priaient de réfléchir et d'analyser avant de prendre une décision, qui dit je ne veux ni réfléchir ni analyser, sinon pourquoi serais-je duc de Saxe?
Oui.
Et donc là aussi, je pense que ça remonte assez loin.
Alors, mais c'est ça qui est très troublant, c'est-à-dire que c'est ce que vous dites, que c'est ce que les habitués du Kremlin appellent le contrôle manuel, c'est-à-dire le contournement du système et des règles. Mais ce à quoi on assiste, c'est à une forme de nouvelle inculture du pouvoir. C'est-à-dire que c'est ça qui est très troublant. Il y a une vraie défaite des intellectuels. Vous rappelez que Trump ne lit absolument jamais, mais rien, jamais un livre, jamais même une note de celle qu'on lui envoie. Tout est basé sur la culture orale et sur l'instinct, en fait, et qu'il y a paradoxalement un vrai génie politique chez Trump, quels que soient les résultats, parce que les résultats ne sont pas nécessairement au rendez-vous après, mais dans la manœuvre, en tout cas, il y a un vrai génie politique. Ouais. Et donc cette disjonction entre la culture intellectuelle d'un côté et le génie presque animal de l'autre est très troublant dans la modernité, dans l'ère moderne qui s'ouvre.
Oui, alors je pense que pour comprendre ça, il faut quand même se pencher sur le deuxième élément qui me semble central dans cette évolution, c'est-à-dire le moment machiavélien. Bien évidemment, vous avez ce retour de personnages d'un autre âge, mais il s'appuie sur une évolution technologique et un nouvel écosystème qui est celui dans lequel nos démocraties balancent, qui est l'écosystème du numérique. Je pense que c'est très important de faire le lien entre ces deux éléments. À l'époque de Machiavel, les petites républiques de la Renaissance, y compris la patrie même de Machiavel, Florence, sont balayées, bien évidemment, par une invasion qui vient de France, d'ailleurs, à cette époque-là, mais aussi par une explosion de violence qui est liée à une nouvelle technologie qui est l'invention et le déploiement de l'artillerie lourde. L'artillerie lourde donne un avantage à l'agresseur parce que elle est capable de pénétrer les murailles des petites villes et des petites républiques de la Renaissance qui avant pouvaient se protéger des assauts simplement en refermant les portes. Ça ne marche pas avec l'artillerie lourde qui donne donc une prime à l'agresseur. Et à chaque fois que dans l'histoire vous développer des technologies offensives qui sont plus rapides et beaucoup plus fortes que les technologies défensives, vous avez des moments plutôt de guerre, des moments plutôt chaotiques, des nouveaux personnages qui montent sur la scène. Et le numérique, qui est la dimension dans laquelle nous basculons tous de plus en plus, non seulement le débat public et le débat démocratique, mais même la vie de chacun d'entre nous, a exactement la même le même caractère. Une cyberattaque ne coûte rien, elle fait des dégâts immenses, très difficile de s'en protéger, et même si, sans aller aussi loin, une campagne sur les réseaux sociaux, on le sait bien, disons, la prime est toujours à l'agression, à la violence, à l'extrême, oui, oui. Et dans tous les cas. Et donc, nous voyons aujourd'hui, je pense, ressurgir ces figures borgiennes dans un écosystème différent.
Mais alors, il y a un écrivain que vous citez à propos de ça, à propos de la technique, c'est Malaparte, dans un passage passionnant. Malaparte, qui était donc longtemps un soutien de Mussolini, il a écrit un livre qui s'appelle « Technique du coup d'État » et il montre que quelque chose a changé au moment de la révolution soviétique dans la façon dont on s'emparait du pouvoir. C'est-à-dire que là où Kerensky, qui avait pris le pouvoir en Russie à la suite de l'abdication du tsar, prenait toutes les précautions possibles contre une éventuelle insurrection bolchévique, en défendant les organisations bureaucratiques et politiques de l'État et les institutions, Trotsky, dit Malaparte, a compris qu'en fait, pour s'emparer de l'État moderne, il faut une troupe d'assaut et des techniciens. des équipes d'hommes armés commandées par des ingénieurs qui envahissent les centrales électriques, les gares, les infrastructures. Et c'est-à-dire que les communistes ont pris le pouvoir sans que le pouvoir s'en rende compte.
Voilà.
À un moment donné. Et c'est l'analyse que fait Malaparte. Et vous dites que c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui au niveau mondial.
Oui. Je pense que c'est exactement ce qui s'est produit, c'est-à-dire que on a vu en réalité toute une série, voilà, sans même, c'est vraiment un peu l'histoire que j'essaie de raconter dans le livre, s'il y en avait une, parce que comme vous dites, c'est surtout des scènes, mais s'il y avait une continuité, ce serait cette sorte de montée en puissance sur 30 ans des gentils jeunes hommes en sweat à capuche qu'on a vu apparir à la moitié des années 90, qui étaient donc les entrepreneurs de la tech, dont on s'est dit au départ qu'ils étaient bien gentils. Après, ils ont gagné énormément d'argent avec leurs entreprises et on s'est dit que c'était des entreprises, que c'était l'innovation. Et puis, on a vu que ça avait un effet politique et on s'est dit bah ça a plutôt un effet positif, ça permet de faire émerger de nouvelles voix, des outsiders, etc. Mais tout ça ne s'est pas arrêté là, ce processus a continué. D'ailleurs, on parle beaucoup aujourd'hui de et bien évidemment du couple un peu troublé que constitue
Musk
et Trump, mais il y a 13 ans déjà, je raconte dans le livre le rôle qu'a eu Eric Schmidt, ancien patron de Google, pour la réélection d'Obama en 2012, une opération colossale de construction d'une banque de données la plus avancée qu'on ait jamais vue sur les électeurs américains, qui permettait de cibler un par un tous les électeurs qui pouvaient être importants pour la réélection d'Obama. Et donc, voilà, on a vu progressivement cette montée en puissance de la dimension du numérique, nos vies et surtout la vie de nos démocraties qui se déplacent des sièges et des lieux normaux dans lesquels elle avait lieu avant. Donc, nous sommes par exemple à la radio, ça peut être d'autres médias traditionnels, c'était la rue, c'était des assemblées, c'était des partis, c'était des lieux où la démocratie, s'était développée. Elle se déplace, cette vie démocratique, dans la sphère du numérique, dans laquelle il n'y a aucune règle, hein, parce qu'on a décidé de n'imposer aucune règle à la sphère du numérique. Donc c'est une sphère où il n'y a que la loi du plus fort, une forme de presque d'État en faillite, qui est donc des bandes de seigneurs de la guerre qui font la loi dans le numérique. Mais c'est là que nous vivons aujourd'hui, c'est là que nos démocraties vivent de plus en plus, et tout ça s'est passé sans que les responsables politiques, les ministres, les gouvernants, les chefs d'État et les chefs de gouvernement ne s'en soient rendus compte, jusqu'au moment où, comme aujourd'hui, ils risquent d'être balayés
eux-mêmes. Oui, dans l'histoire d'Eric Schmidt et d'Obama, vous rappelez que, en fait, ce qui s'est passé en 2012, c'est que, grâce à ce qui s'appelait le projet Narval, Obama a entamé l'année de sa réélection avec la certitude de connaître le nom de chacun des presque 70 millions d'Américains dont le vote le portait à la Maison-Blanche. C'est-à-dire que, en fait, ce à quoi on assistait avec Trump et Cambridge Analytica, en réalité, avait été complètement mis en place par Obama, à peu de choses près.
Tout à fait.
Et d'autre part, ce que vous dites, c'est que ce passage au numérique, c'est la fin de la centralité, en fait. Vous dites, dans un monde où la condition numérique est devenue la première expérience véritablement globale, les dynamiques propres à Internet et aux réseaux sociaux peuvent être exploitées plus ou moins de la même façon partout, et le Nigeria devient un excellent terrain d'essai pour une campagne dans un pays scandinave. Tant que la compétition politique se déroulait dans le monde réel, sur les places publiques et dans les médias traditionnels, les coutumes et les règles de chaque pays en déterminaient les limites. C'est plus le cas aujourd'hui. On est entré dans ce que vous appelez une sorte de Somalie digitale, mondiale. où on pourrait dire il n'y a plus de centre et tout est la province et tout est mis à égalité.
Oui, mais d'ailleurs, c'est l'explication du phénomène dont vous parliez avant, c'est-à-dire des réalités relativement marginales, comme peut être le cas du Salvador de Bukele, comme peut être la tronçonneuse de Milei en Argentine, non, s'attaquer aux dépenses publiques, qui partent donc de ces endroits-là et qui deviennent des slogans, des politiques publiques et même des choix aux États-Unis. C'est donc une forme de périphérie ou de d'expérience périphérique qui remonte vers le centre, alors que traditionnellement le parcours de l'innovation politique, y compris de la communication politique, de la propagande, etc., ça partait du centre et après on imitait un peu partout ce qui se passait, d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe, etc. Donc tout ça s'est modifié très profondément.
Ça va de pair avec un effondrement à peu près total de tous les lieux traditionnels du savoir, médias, universités, j'en passe. Tout est en train de s'effondrer complètement en réalité. La crise qu'on voit dans les universités n'est pas exclusivement le fait de la politique de Trump, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc c'est ce changement, en même temps, c'est difficile d'aller... Enfin, je veux dire, ça sert à rien de le nier en quelque sorte. On peut se demander si ça sert à quelque chose d'essayer de s'accrocher aux oripeaux de ce monde ancien plutôt que d'essayer de plonger dans le nouveau pour le comprendre. Non ?
Alors, je pense que c'est l'erreur que nous avons fait en 2020 après l'élection de Biden. On a voulu se dire qu'au fond, l'élection de Trump était un accident de parcours, qu'on revenait vers une forme de normalité, que de toute façon, Trump s'était complètement décrédibilisé avec l'assaut du Capitole, qu'il ne reviendrait jamais, etc. Et c'est là que beaucoup ont fait cette erreur qui est humaine, mais de se dire on revient à la normale.
Ça va passer.
Oui, ça va passer. Alors que non. D'ailleurs, bien avant Bukele qui commente la réélection de Trump, il y avait eu déjà en 2016 Henry Kissinger, qui est une sorte d'entomologue de la politique et du pouvoir, historien, mais qui a été au cœur du pouvoir parfois de façon un peu obscure pendant des décennies. Il était resté prudent parce que il l'avait par, disons, son habitude était de fréquenter tous les occupants de la Maison Blanche, et donc je pense Trump, y compris Trump, mais il avait dit, il arrive parfois dans l'histoire qu'il y ait des hommes qui sont des acteurs même inconscients d'une transformation. Ils ne le savent pas forcément, mais ils marquent un passage d'époque. Mm-hmm. Et ça, lui l'avait dit dès 2016. Donc, je pense que ce serait aujourd'hui complètement absurde encore d'imaginer que si Trump s'autodétruit, par exemple, ce qui est très très possible,
oui, c'est possible. Hein,
il a une capacité d'autodestruction qui est très forte, eh bien, on reviendra à l'ancien monde, à l'Alliance Atlantique, aux élites américaines auxquelles nous sommes habitués. Tout ça ne pourra plus exister sous la forme précédente.
Alors, Giuliano d'Ampoli, vous citez là-dessus Joseph de Maistre dans sa correspondance qui parle de la Révolution française en disant exactement ça, en disant « Nous avons fait l'erreur de croire qu'il s'agissait d'un événement. En réalité, il s'agit d'une époque. »
Oui.
C'est ça.
Oui.
C'est cette époque dans laquelle on est entré. Et alors, la question que je me pose, c'est quand même, en vous lisant, j'ai parce que vous parliez de César Borgia essentiellement, mais revenu en tête la fameuse phrase d'Orson Welles dans « Le troisième homme », l'Italie sous les Borgia a connu 30 ans de terreur, de meurtre, de carnage, mais ça a donné Michel-Ange, de Vinci et la Renaissance. La Suisse a connu la fraternité, 500 ans de démocratie et de paix, et ça a donné quoi ? Le coucou suisse.
Alors, en tant que moitié suisse, je dois dire, j'ai toujours trouvé cette phrase un peu vexante et injuste. Donc,
oui, mais la moitié italienne.
Alors, la moitié italienne, par contre, mais écoutez, difficile de nier que nous vivons une époque extraordinairement intéressante.
Ouais.
Regardez, vous parliez au début de ce qui se passe dans la dimension technologique de l'intelligence artificielle et de tout ça. On est quand même en train de vivre une des époques les plus passionnantes qu'on puisse concevoir. D'ailleurs, certains imaginent même qu'elle débouchera un jour sur un avenir post-humain. Il y a aujourd'hui vraiment plus aucune limite. Mais comme vous le savez aussi, pour les Chinois, le fait de vivre dans une époque intéressante est une malédiction.
C'est une malédiction, ouais. Absolument. Mais c'est ça qui est troublant, c'est qu'à la fois l'époque est très intéressante et en même temps tous les critères de raison, de culture, de littérature, de pensée, et même de narration, c'est-à-dire la possibilité même de raconter ce qui se passe, sont remis en cause.
Oui, après, là, ma conviction, par contre, est qu'il faut faire l'effort. Nous essayons, par exemple, de le faire avec la revue du Grand Continent que vous connaissez. Moi, j'essaie de le faire depuis mon livre 2019, Les ingénieurs du chaos. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer d'entrer dans la nouvelle logique. C'est-à-dire, il faut, là aussi, vous savez, la Bible, le précepte biblique, je pense, est aussi celui des services de renseignement. C'est aime ton prochain, et c'est-à-dire, surtout, entre dans sa logique, essaye de comprendre, surtout si c'est quelque chose de très loin de toi, surtout si c'est quelque chose qui, à premier abord, comme ça, tu regardes en te disant, mais c'est complètement fou, mais pourtant, ça produit des effets, oui. ça prend de la place, ça il y a des millions de gens qui adhèrent, donc soit on se dit bah c'est fou, non c'est n'importe quoi, tout le monde est devenu fou, mais alors par contre on subit un peu l'humiliation d'être battu par des fous et systématiquement, disons, réduits à l'impuissance et à la marginalité par quelque chose qu'on juge complètement idiot.
Par des fous et des illettrés, c'est ça
voilà.
Qui est fascinant.
Et ce qui est... Soit on essaye de faire l'effort de rentrer dans cette logique-là, de voir ce qu'il y a derrière, comment ça se passe, ce qui ne veut pas dire qu'on adhère, mais au moins, ça peut permettre éventuellement de s'y opposer de façon plus efficace.
Et on vous sent tiraillé dans le livre, hein, parce que vous avez tendance à considérer vous parlez de l'IA comme d'une technologie borgienne et autoritaire, d'un mode de connaissance autoritaire et d'un nouveau mode de pouvoir, en fait. Vous dites qu'en révisant la réalité à une série de 0 et de 1, le codage numérique accomplit une œuvre implacable d'homogénéisation, que quelque part ça va de pair avec le nombre d'aspergés qu'on trouve chez les ingénieurs de la tech. Vous avez tendance à les considérer plus ou moins tous comme des aspergés. Mais enfin, à côté de ça, il y a quand même des gens comme Peter Thiel qui sont, pour le coup, de vrais intellectuels formés chez Léo Strauss, formés chez René Girard, qui ont une vraie vision du monde, très discret, mais extrêmement impliqué dans ces projets.
Oui, il y en a très peu. Hein. Le nom de Peter Thiel, effectivement, est sûrement un des plus frappants. Là, il y a véritablement, c'était quelqu'un qui était un libertaire à l'origine, qui a fait de la politique, qui était dans le champ intellectuel et qui, à un moment, s'est dit qu'il était perdant sur ce terrain-là et qui donc a fait une sorte a développé l'idée que c'est à travers la technologie, sans le dire, qu'on pouvait prendre le pouvoir et contourner la politique. Et au fond, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On parle, ce qui est ce qui est en face de nous. Et Trump en est en partie le révélateur, même s'il n'en est pas véritablement l'acteur. C'est véritablement un changement de régime. Ouais. C'est de ça qu'on parle.
Ouais.
Donc, basculer de la démocratie libérale telle qu'on la connaît dans quelque chose d'autre.
Voilà, merci Giuliano D'Ampoli d'avoir été là aujourd'hui avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle le titre du livre « L'heure des prédateurs » chez Gallimard. Vous avez aussi été le coordonnateur de « L'Empire de l'ombre, guerre et je ne sais quoi au temps de l'IA ». La revue
guerre
du Grand Continent,
je crois.
Quoi ?
Guerre et terre, je
guerre
crois.
Guerre et terre au temps de l'IA, la revue du Grand Continent, un numéro spécial. C'était « Signe des temps », une émission de Marc Wetzmann, assisté de Aurélie Marseille, avec à la technique Anthony Thomasson et à la réalisation Luc Jean Reynaud.